Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Héloïse Brion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre d'art et de cuisine. Puis je dis un livre d'art parce que les photos sont absolument magnifiques. Et le livre s'appelle « Chez Miss Maggie's Kitchen ». Ça sort chez Flammarion. Alors, présentez-nous ce titre et puis nous parlerons des différentes antennes de cet ouvrage.
Alors, Miss Maggie's Kitchen, c'est un peu une aventure qui n'était pas vraiment prévue. Donc déjà, ça s'appelle Miss Maggie parce qu'on avait baptisé notre maison de campagne Miss Maggie parce qu'elle fait un peu vieille anglaise, elle est toute en hauteur et elle a un look un peu british. Et ensuite est venue un petit peu naturellement Miss Maggie's Kitchen. Mais c'est vrai que c'est un livre qui comporte toutes mes passions autour de la cuisine, de l'art de vivre, du partage, des moments qu'on vivait autour d'une table en cuisine avec des gens qu'on aime.
C'est un livre très inspiré, avec de très belles photos. Vous avez aussi un site magnifique. Il y a beaucoup de beauté plastique, artistique autour de ce concept Miss Maggie's Kitchen. Alors, quelles sont les veines de votre inspiration ?
Alors, moi, je suis française, mais j'ai grandi aux États-Unis. Donc, je pense que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc, je pense que c'est un petit peu les voyages et puis c'est le fait d'avoir vécu entre deux cultures qui m'a beaucoup inspirée. Ensuite, il y a un côté quand même très spontané. C'est fait avec au rythme des saisons, avec la nature. Et c'est un travail que je réalise avec mon mari, Christophe. Qui m'aide pour tous les visuels et les films que nous réalisons d'ailleurs ensemble aussi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu suivre le cours des saisons et la nature et ce que la terre nous offre en termes de fruits, légumes, etc.
Alors, pouvez-vous nous parler de votre art de vivre, puisqu'il est question d'un art de vivre?
Alors, en fait, pour moi, ce qu'on va servir dans une assiette, c'est important, mais tout ce qui est autour est tout aussi important. Donc, c'est vrai que une jolie table, une jolie décoration, tout ça, je trouve qu'on emporte nos convives un peu. C'est un petit peu un voyage qu'on leur propose, et c'est vrai que j'essaie de montrer aux femmes et aux hommes d'ailleurs que finalement, on n'a pas besoin d'énormément de moyens pour faire une jolie table ou une jolie décoration. On peut justement aller dans la nature, prendre une branche, des fleurs, des produits de saison. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de spontané, naturel et unique à chaque fois.
Alors, il y a des mises en scène très travaillées de votre maison, donc du décor de cette table. Ces mises en scène, vous avez du matériel, des assiettes anciennes, en faïence, des nappes brodées. Est-ce que vous avez, comme ça, vous avez eu un héritage de ces belles choses ou est-ce que vous avez collectionné depuis longtemps, depuis toujours, toutes ces jolies choses qui viennent ajouter à la magie de la table?
Alors c'est vraiment quelque chose ça fait vraiment partie de mes passions depuis toujours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu au fil du temps. Depuis que j'étais assez jeune, j'aimais bien trouver dans les brocantes des assiettes anciennes ou des verres. J'ai toujours eu un faible pour les draps brodés de grand-mère que j'utilise en nappe. C'est vrai que donc du coup ma collection grandit de plus en plus. Et ensuite j'ai eu la chance aussi d'hériter d'un très beau service qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Mais sinon c'est vrai que je chine depuis que je suis assez jeune et je continue à le faire. Et il faut que je trouve un peu plus d'espace pour pousser les murs maintenant.
Alors vous dites qu'il y a des ambiances différentes selon les convives. Les lieux, les saisons. Alors les saisons, on comprend, les lieux aussi. Les convives, alors si vous avez par exemple une chanteuse qui vient, vous aurez une décoration spéciale. Comment est-ce que vous adaptez suivant les convives ?
Bah en fait les convives ça aussi ça dépend si c'est alors je sais pas forcément par rapport à la profession je dirais de quelqu'un mais c'est plus est-ce que c'est un repas qui est fait pour adultes pour différentes générations confondues est-ce que c'est des gens qui sont est-ce que c'est de la famille ou d'un coup j'essaie de d'y mettre quelques objets justement de famille en petit clin d'œil aux personnes qu'on a pu connaître qui sont plus là ou à un cadeau qu'ils ont pu me faire, est-ce que ce sont des amis, est-ce que ce sont des est-ce que c'est un repas plutôt professionnel est-ce que de temps en temps il m'arrive d'organiser des dîners pour des marques de mode par exemple et c'est vrai que par rapport à la table je vais réfléchir un petit peu aux valeurs et à l'ADN de la marque ou de la collection qu'ils souhaitent présenter pour justement faire un rappel et que ce soit cohérent par rapport à leur collection.
Alors, vous avez dit que vous avez grandi entre deux pays, les États-Unis et la France. Quelle région spécialement, précisément, si vous pouvez ?
Oui, alors en fait, donc je suis née en France et on est parti vivre aux États-Unis quand j'avais 7 ans. Et donc on devait partir que 2 ans là-bas. Et puis finalement, mes parents ont décidé de rester. Ils vivent toujours là-bas. Et mon frère vit aussi aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, on était ils vivent en Floride, donc j'ai grandi en Floride. Et c'est vrai que pendant l'année scolaire, nous étions là-bas et tous les étés, nous étions en Europe, mais surtout en France. Donc c'est vrai que on était entre les deux, on était dans des écoles américaines là-bas, mais à la maison, on parlait français, on avait les repas quotidiens, en famille, on gardait un petit peu toutes les traditions françaises aussi. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le mélange des deux, avec la journée avec plutôt à l'américaine, et puis les soirs et les étés, les week-ends avec la partie plus française et européenne.
Alors, vous avez évoqué dans votre livre ce masque, et puis avec des repas familiaux sans électricité, préparés au feu de bois. Est-ce que c'est toujours comme ça Est-ce qu'il n'y a toujours pas l'électricité? Est-ce que vous travaillez parfois au feu de bois?
Alors, mes parents avaient acheté cette maison l'année de ma naissance et il n'y a pas eu l'électricité pendant 35 ans. Mais donc du coup maintenant il y a l'électricité. Ils ont voulu un petit peu plus de confort donc il y a l'électricité. Mais on fait encore des choses. Il y a une immense cheminée. On fait encore des choses au feu de bois quand on le souhaite. Mais maintenant on a un peu plus le choix. Et c'est vrai que moi en Normandie, on a une cheminée dans la cuisine et régulièrement on cuisine des choses aussi avec le feu. Je trouve que c'est plutôt agréable, ça donne aussi un petit goût aux aliments, que ce soit des légumes, des fruits ou de la viande ou poisson. Et c'est une autre façon de maîtriser la cuisson.
Alors vous, en 2015, vous tombez sous le charme d'un vieux pavillon normand, comme vous nous l'avez dit, au look très british. Et puis vous énoncez un certain nombre, non pas de principes, mais de d'idées président à la façon dont vous cuisinez. Alors reconnaître ce que l'on mange, c'est-à-dire que reconnaître goût, reconnaître au visuel.
Au visuel, en fait, je trouve que moi, je n'aime pas du tout les verrines ou les petites cuillères. Enfin, quand on transforme trop les ingrédients, les produits, je trouve ça un petit peu dommage. Déjà, on reconnaît plus tellement le goût, et en plus, on ne sait pas ce qu'on mange. Je trouve que c'est toujours un petit peu perturbant. Selon moi, pour bien nourrir le corps, l'âme, le cœur, si on veut, c'est bien de reconnaître ce qu'on va goûter. Et en plus, je trouve que quand on a des bons produits, c'est aussi les respecter et les honorer, que plutôt de les mettre en valeur et faire un jeu d'association. d'associations et d'assaisonnements pour cela, mais de ne pas trop les transformer.
Alors, quelles sont vos inspirations? Qu'est-ce qui vous propulse et qui vous donne vraiment envie d'aller cuisiner? Est-ce que c'est un parfum? Est-ce que c'est une image que vous aurez vue dans un livre? Qu'est-ce qui vous aimante vers cette cuisine?
Alors, il y a pas de règle, ça dépend des matins. Je me réveille avec une idée bien précise tout d'un coup en tête et il faut que je teste tout de suite cette recette. Mmh. donc il y a des moments, voilà, c'est une idée qui vient dans la nuit. Et je dirais souvent, c'est quand je suis au marché et que je vois les produits de saison ou la beauté de certains produits, je me dis tiens, j'ai envie d'essayer quelque chose et du coup je les mélange. Après, il y a d'autres moments où j'adore interroger le frigo et me dire bon ben voilà ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer avec tout ça pour le rendre un petit peu sympathique. Ça peut être aussi à travers des tableaux, des choses, mais c'est vrai que c'est souvent quand même avec la nature ou dans la nuit des idées qui viennent, qui arrivent.
Est-ce que vous lisez des livres de cuisine? Est-ce que vous avez un grand cuisinier que vous admirez, qui est pour vous, non pas un fil directeur, mais qui est pour vous comme un ancêtre, quelqu'un qui vous apporte le goût de cuisiner?
Alors non, pas vraiment. J'ai beaucoup de livres de cuisine, mais il se trouve que j'ai jamais, je pense, réalisé une des recettes de mes différents livres de cuisine. En revanche, il y a trois femmes que j'aime beaucoup. Et je dirais il y a Julia Child. Et donc c'est peut-être aussi pour le côté franco-américain, mais j'aime cette américaine qui est quand même devenue en France, a voulu apprendre à cuisiner, s'est battue pour le faire, a réussi à avoir son émission, etc. Enfin, elle avait un amour pour la cuisine française que je trouve vraiment sympathique. Une autre d'ailleurs qui est tombée amoureuse de cette cuisine-là, une autre américaine, c'est Alice Louise Waters, qui en plus fait des choses extraordinaires aux États-Unis pour vraiment aider parce que les enfants mangent de tout et sainement et s'intéressent justement aux bons produits de saison aux États-Unis. Et qui était aussi arrivée en France comme ça et a été descendue dans un petit bistrot le matin de son arrivée en décalage horaire et avait goûté une soupe, je pense que c'était, et tout d'un coup s'était dit ah là là, mais ce potage est merveilleux, les goûts et tout, et la cuisine est arrivée comme ça vers elle. Et l'autre personne qui est vraiment quelqu'un de cœur que j'aime beaucoup, qui avec qui je partage ce côté convivial de partage de famille et la générosité, c'est Perla Servan-Schreiber.
Alors, comment pourrait-on qualifier votre style de cuisine? Est-ce que vous êtes attentive à la diététique? Par exemple, vous choisissez une huile de colza plutôt qu'une huile de tournesol. Est-ce que vous êtes quand même attentive à la diététique?
Moi, en fait, je pense qu'il faut vraiment manger de tout. Après, c'est une question de quantité, d'équilibre entre les choses. Donc, je rentre pas dans une des différentes modes de sans gluten, vegan, etc. et tout. Maintenant, je pense qu'il faut équilibrer les choses. Mais quand on a des bons produits, une bonne huile, je me dis pas qu'est-ce qui va être plus diététique ou plus pharmacie. Enfin, j'ai des recettes qui vont être plus saines. On dirait que d'autres, mais je pense qu'il faut un petit peu manger de tout. Nos corps, on a différents besoins. Ce qui est important, c'est surtout de suivre les saisons et que ce soit le plus local possible. Parce que je ne suis pas non plus bio à tout prix. Manger des mangues bio en France en ce moment, je trouve ça, c'est juste pas possible. Déjà, nos corps n'ont pas les mêmes besoins, qu'on soit sous les tropiques ou qu'on soit en France, en Normandie ou ailleurs, en plein hiver. Donc, mon fils, par exemple, aîné, qui adore les mangues, je lui avais dit, cet hiver-là, on est allé en Floride, je lui ai dit, là-bas, tu pourras en manger parce qu'elles elles poussent localement, etc. Mais tu pourras en manger plein là-bas, mais on n'en mange pas en France. Donc, elles ont beau être bio, elles ont fait des millions de kilomètres. Donc, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais voilà, après, c'est juste suivre ce rythme-là, quoi.
Il y a une série de petits paragraphes très passionnants que vous intitulez ingrédients, condiments, aromates, épices. Alors, quels sont les ingrédients fétiches d'Héloïse Brion?
Alors moi les choses que j'adore à chaque fois, c'est que c'est vrai que j'ai toujours alors c'est surtout au niveau des herbes, et j'adore le thym, j'adore le romarin et dans les agrumes le citron. C'est vrai que je mets du citron un petit peu dans tout. Et sous toutes ses formes, ça peut être le jus, ça peut être le zeste, ça peut être en quartier, en rondelle. Enfin bon, donc ça sont vraiment les ceux que je préfère.
Oui. Est-ce que vous consommez bio? Est-ce que vous êtes attentive à cette façon d'acheter, de consommer?
Bah, c'est pas, en fait, oui, je pense que c'est important, mais je pense que c'est pas bio à tout prix. Je vais souvent, enfin, au marché le samedi matin à Lisieux, et là, enfin, par exemple, il y a des gens qui vendent ce qu'ils ont fait pousser dans leur jardin, donc c'est même plus bio que bio, je dirais. Mais et donc c'est vraiment ça qui est plus important pour moi, c'est de savoir d'où viennent les produits, que ce soit des fruits, des légumes, ou même de la viande ou du poisson, donc d'où ils viennent et comment ils ont été traités. Et plus que le côté bio. Après, je pense qu'il y a des choses où c'est important. Par exemple, les agrumes, c'est important de prendre vraiment pour le coup du bio, parce que souvent les agrumes sont traités 50 fois plus que d'autres fruits et légumes, parce que on a tendance à penser que leur peau est plus épaisse, et donc du coup il faut plus les traiter. Mais en fait, c'est terrible. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup de zeste dans mes recettes. Pour le coup, là, je veux pas que j'ai beau les laver, avoir des choses pour enlever les pesticides, ça n'enlève pas tout. Donc je prends vraiment du bio. Mais après, c'est vraiment de savoir d'où viennent les choses. Les pommes, qui sont les pommes de chez nous, de nos voisins, elles ne sont pas du tout traitées. C'est délicieux, c'est merveilleux. Et ça a vraiment l'odeur et le goût de la vraie pomme.
Alors moi, j'ai admiré beaucoup, beaucoup de recettes, notamment ce mélange de d'amandes, de noix de cajou grillées avec des herbes.
Moi, c'est des choses que je fais souvent. C'est comme je disais que j'aimais interroger un petit peu le frigo, les placards. Ce sont des choses souvent que je fais en me disant, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir twister un petit peu tout ça, et donc du coup je teste des choses. Donc oui, que ce soit des amandes. Alors, ce que j'aime bien avec ces noix, en tout cas ce mélange de noix, c'est de les réchauffer justement un petit peu, parce que c'est vrai qu'ensuite ça donne un petit côté toasté, grillé. Et même quand elles sont plus tièdes, c'est encore très très bon. Mais ça fait ressortir toutes les saveurs. Donc ce sont des choses qui me viennent un petit peu comme ça. Là, il y a une tarte courgette et burrata dans le livre également. Ça, elle a été inventée un jour quand des amis sont arrivés. Ils devaient venir pour le goûter. Ils sont arrivés un peu plus tard. C'était plutôt lors de l'apéritif. Donc je dis, bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai un peu de pâte feuilletée. J'ai du pesto. J'ai des courgettes. On va faire comme ça, une burrata. Et puis ensuite, avec le temps, la recette a évolué. J'ai rajouté des pignons. Évidemment du zeste de citron, de l'huile de truffe blanche, etc. Donc mais c'est vrai qu'au départ, c'est souvent des choses qui sont très spontanées.
Alors les huiles, oui, les huiles infusées, huile d'olive infusée, de quoi? Vous parlez aussi dans vos ingrédients de fleurs de sel, fleurs de l'Himalaya, sel de l'Himalaya, et puis de zaatar. Ouais. Alors c'est quoi? Ce sont des mots qui chantent, des noms qui chantent?
Oui, mais après, alors ça, je les ai pas inventés pour le coup. Ça sont vraiment ça existe vraiment, les atars et tout ça existe vraiment. Mais je trouve que souvent on a du mal, par exemple, si on vit pas dans une grande ville, à en trouver du tout préparé. Donc c'est pour ça que je voulais partager un petit peu mes recettes que les gens peuvent faire à partir d'ingrédients qu'ils peuvent plus facilement trouver localement chez eux.
Alors, vous collaborez aux fiches cuisine de Elle et Elle à table. Ouais. Et vous avez aussi un journal de recettes que vous éditez. Quelle est la périodicité? Parlez-nous donc de cette contribution aux fiches de Elle cuisine et puis de ces journaux de recettes.
Alors, tout a commencé avec cette aventure Miss Maggie's Kitchen, parce que beaucoup de mes amis, de la famille me demandaient tout le temps mes recettes, et c'est Christophe qui m'a dit un jour, mais écoute, on va faire un petit journal de recettes pour en guise de cadeau de fin d'année pour ces personnes. Et lui, il était plutôt photographe c'est des portraits, des photographes de mode, etc. Mais il m'a dit, je vais essayer de faire des photos de plats. Et donc on a sorti ce premier petit journal, et c'est comme ça que sur la couverture, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre Miss Maggie's Kitchen, parce que tout le monde, enfin nos amis, connaissent tous cette maison. Donc ça, le premier était sorti fin 2016, mais c'était un cadeau de fin d'année. Et à partir de là, j'ai commencé à les sortir tous les 3 mois. Et j'ai commencé à les vendre que quand j'ai lancé vraiment la marque, enfin officiellement, en le 4 juillet 2017. Donc au bout du 3e numéro, c'est là où j'ai commencé à vendre les journaux. Et donc ils sortent tous les 3 mois. Là, ça fait, comme le livre est sorti en octobre, du coup, j'en ai pas sorti en septembre, mais j'en ai pas sorti non plus en novembre, décembre, pour vraiment laisser la priorité au livre. Mais sinon, il sort tous les 3 mois. Et à côté de ça, elle, en fait, il m'a contacté, en printemps 2018, en me proposant de faire des fiches recettes de tout l'été 2018. Donc, du coup, j'ai fait 8 semaines de fiches recettes pour le L, et ensuite maintenant c'est un peu plus espacé. Donc là il y en a une qui est sortie fin novembre, j'en fais une autre pour février, enfin c'est un peu plus espacé, mais ça m'arrive régulièrement, et c'est très chouette, c'est une chouette collaboration. Et c'est vrai que pour moi, du coup, j'essaye toujours de réfléchir, de me dire, ok, pas tout le monde vit dans une grande ville où ils vont trouver une épicerie qui aura tel condiment ou tel ingrédient qu'on a du mal à trouver. Donc il faut vraiment que je réfléchisse à des ingrédients de saison et que les gens vont pouvoir se procurer facilement. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que quand on ne trouve pas une chose qu'on trouve dans une recette et que voilà, qui existe nulle part. Voilà. Donc c'est un peu, j'ai pas envie de créer de frustration, j'ai envie que les gens soient heureux en cuisine.
Alors Héloïse Brion, le site de la marque Miss Maggie's Kitchen, donc du livre aussi chez Miss Maggie's Kitchen, est vraiment magnifique, et les photos sont de Christophe Rouet, c'est votre époux.
Exactement.
Et
exactement.
Alors, comment avez-vous travaillé la beauté de ce site? Vous l'avez bien organisé, vous avez voulu mettre une espèce de bréviaire au début, avec des petits articles, et surtout de très très belles photos, des photos un peu vintage, avec des couleurs pastels, des bruns, des ocres, des sépias. C'est presque une palette de couleurs de peintre.
C'est gentil, c'est gentil. Oui, je sais pas, je voulais quelque chose qui soit assez clair, que les gens puissent trouver ce qu'ils cherchaient assez facilement. Mais je voulais pas quelque chose de froid. Et donc c'est vrai que je trouve que l'équilibre entre les photos de Christophe qui sont très douces, et le fait que j'utilise souvent de la vaisselle ancienne, avec un côté plus épuré, je dirais, pour le reste de la mise en page du site. Je trouvais que ça fonctionnait bien, parce que du coup ça c'est ça qui apporte aussi, qui rend le tout pas trop vieux, mais qui apporte la touche de modernité, justement.
Alors Héloïse Brion, donc par rapport à ce livre de cuisine, un beau, très beau livre de cuisine chez Miss Maggie's Kitchen, on peut dire aussi que vous venez du milieu du monde de la mode.
Tout à fait, ouais. J'ai travaillé plus de 15 ans pour différentes maisons.
Qui faisiez-vous du dessin, de la couture, je ne sais pas. Que faisiez-vous dans la mode?
Je m'occupais de la communication et de l'image, surtout des différentes marques.
Et en cuisine, j'ai lu aussi que vous étiez autodidacte. Mais quel entraînement!
Oui, c'est sûr. C'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. J'adore être en cuisine, essayer des différentes choses, créer des jolies tables. Donc c'est vrai que avant je faisais vraiment pour quand on recevait du monde ou pour nous. Enfin voilà, mais c'est vrai que là maintenant je fais du coup beaucoup plus et je le partage avec beaucoup plus de monde. Mais c'est chouette.
C'est tout à fait chouette. Alors une dernière question. Quelle est la recette qui vous rend service, que vous adorez faire, dans laquelle vous partez comme si c'était quelque chose de très personnel?
Ah, j'en ai plusieurs. Ça dépend si on veut du sucré ou du salé. Pour du sucré, je dirais que c'est le cake et la fleur d'oranger. Mm-hmm. C'est vraiment c'est celle que mes fils préfèrent en gâteau aussi, et qui plaît à chaque fois. Et je dirais pour un plat salé, il y a soit la tarte justement courgette burrata, mais sinon les lasagnes végétariennes. À chaque fois, je sais que voilà, je me pose pas de questions, je sais que ça va fonctionner, que les gens adorent à chaque fois.
Alors, Héloïse Brion, merci infiniment de nous avoir parlé, d'avoir partagé avec nous à propos de ce livre qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Le titre est « Chez Miss Maggie's Kitchen », un livre magnifique, fabuleux, passionnant et que l'on lit. Et vous dites que si on met un peu de farine dessus et des taches d'huile ou autre, ce n'est pas grave, ça fait partie
ah, oui.
du travail du cuisinier, de la cuisinière.
Exactement, il faut qu'ils vivent. C'est un livre, c'est fait pour de cuisine surtout, encore plus c'est fait pour faire des annotations, si les gens ont envie de rajouter, changer des épices ou d'autres choses. Enfin, je trouve qu'après c'est quelque chose qui doit se transmettre. Donc du coup, c'est vrai que ça vive et que c'est là où je trouve aussi qu'il devient encore plus précieux quand on l'a fait vivre. Et donc là, il est sorti là maintenant en français, il sort en anglais en avril.
Ah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et vraiment félicitations pour ce très beau livre que vous m'avez offert et que je garde avec grand plaisir. Et puis, j'attends vos prochains. Je pense qu'il y a un autre, vous avez dit qu'il vient de paraître, c'est le même qui sort en anglais ou bien c'est autre chose?
C'est le même qui sort en anglais, ouais. D'accord. C'est le même qui sort en anglais et on réfléchit à un prochain là.
Super. Alors, voilà. gardez mon numéro de téléphone, parler prochainement d'un nouvel ouvrage. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
Merci Héloïse Brion. À très bientôt.
Merci.
Au revoir. Carole Tolila, bonjour.
Bonjour Solange, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste sur France 5 et vous co-animez l'émission Silence ça pousse, l'émission mythique de Stéphane Marie depuis déjà 2 ans, je crois. Et vous venez de faire paraître aux éditions EPA un livre passionnant. Qui présente des do-it-yourself, ce sont
des bricolages,
des décorations que vous faites avec beaucoup d'ingéniosité, qui sont très bien décrits et photographiés et dessinés sur ce livre. Alors dites-moi déjà, vous êtes journaliste et vous êtes passé par plusieurs autres chaînes. Il y a eu la 8 et puis la 3, la 4 et puis maintenant la 5. Vous étiez dans l'émission Les Maternelles que tout le monde adorait, mais qui a cessé. Et on vous a demandé de vous présenter au casting de Silence ça pousse. Et vous l'avez remporté brillamment. Et avec quoi? Avec quel do it yourself?
Avec, effectivement, l'histoire est en plus réelle, puisque dans le livre, j'ai mis le do it yourself avec lequel j'ai remporté le casting, où il y avait quand même pas mal de postulantes. C'était la palette, en fait. tout simplement. C'est-à-dire que le fait de prendre la palette d'une autre façon, de la peindre, et de, donc avec de la peinture d'ardoise, pouvoir écrire dessus, ça a plu à France 5, ce côté un peu débrouillard au sein du jardin. C'est comme ça que j'ai réussi à remporter le job. Et juste précision, les maternelles continuent, mais sous un autre nom, c'est la maison des maternelles. Parce que sinon, d'accord. France 5 ne sera pas content, j'ai envie que c'est terminé. Non, ça continue quand même, mais avec une autre équipe. Donc effectivement, moi, j'ai dû chercher un autre travail et j'ai rebondi sur Silence Pousse.
Voilà. Alors, comment se passe le tournage de cette émission tel qu'on le voit, tel que le téléspectateur le voit, c'est pétillant, c'est frais, c'est bucolique. Et avec Stéphane Marie, il y a quand même toujours beaucoup de magie. Il dessine comme un dieu lorsqu'il est dans les pas de panique. Il jette ses feutres sur la table et des féeries s'élèvent sur le papier et qu'il réalise vraiment sur le terrain. Et vous, après, c'est tout à fait charmant et passionnant ce que vous présentez. Donc, ce sont des plans pour faire des objets décoratifs, ingénieux. Moi, j'ai adoré la balance, le hamac que vous présentez d'ailleurs dans le livre.
Dans le livre, ouais.
Oui. Et c'est vraiment très, très, très charmant. C'est un magazine où ça se marie très bien, le bricolage et le jardinage. Vous faites un peu de jardinage aussi, puisque vous mettez des succulentes dans... Alors, parlez-nous de ces succulentes. C'est quoi ?
Alors, très sincèrement, je n'ai pas de jardin. Donc, c'est difficile pour moi de jardiner beaucoup. J'habite malheureusement à Paris. Je dis malheureusement parce que j'aimerais avoir un espace plus grand et une maison avec un jardin. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé et pas le budget. Donc, je jardine un petit peu chez moi avec des plantes plus d'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des succulentes. Après, je jardine avec Stéphane. Et vous avez raison, vous avez vu juste. Le tournage est frais. C'est parce qu'on est dans le Cotentin, hein. C'est quand même frais quand on tourne là-bas. Là, on vient de tourner hier et on a eu vraiment très, très froid. Mais après, c'est vrai que c'est très sympathique. Je suis contente que vous ressentiez la joie que l'on a avec Stéphane de faire cette émission, parce que c'est vrai qu'on s'entend bien et qu'on adore jardiner ensemble. Il m'apporte beaucoup et je pense que mes bricolages, de temps en temps, le passionne, l'enchante, le challenge, donc ça marche pas mal. Alors après, dans l'émission, c'est vrai qu'au départ, quand il y a eu le casting, on n'était pas sûr de faire du bricolage dans cette émission. C'est vraiment en voyant la palette que la chaîne s'est dit « Ah oui, c'est vrai que ça se marie bien ». Donc ça me fait plaisir de vous entendre que ça se marie bien et que vous preniez plaisir à regarder l'émission. Parce que c'est vrai qu'au début, les gens voulaient peut-être plus que de la plantation. Je sais, sur Facebook, certains disaient « Oh, pourquoi du bricolage ?» Et finalement, au fur et à mesure des mois, ils ont vu que ce que je le faisais, je pense, avec cœur et avec l'envie de plaire à ceux qui adorent les végétaux. Donc ça peut être compatible. Donc merci de le dire.
Ah non, écoutez, c'est vraiment ressenti. Au départ, effectivement, puisque quand on est habitué à l'émission Silence ça pousse de Stéphane Marie depuis des années et des années, le bricolage, ça semblait... Mais c'est comme... pourquoi mais vous avez vraiment creusé votre sillon, c'est-à-dire vous avez donné ce côté de charme, de créativité, non, de créativité intelligente et le sourire et le plaisir et la gourmandise lorsque Stéphane Marie fait une recette et que vous en régalez, c'est très vivant. Alors vous dire que c'est une émission qui apporte beaucoup de vitamines aux téléspectateurs.
C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire.
C'est des vitamines.
Oui. Je vais vous appeler tous les matins pour me avec autant de compliments. Non, mais tant mieux. C'est vrai que moi, je trouve que c'était important d'avoir de la créativité dans cette émission. Je sais que c'est important de parler des plantes, mais on se rend compte même, pas seulement à travers moi, ma partie, mais même à travers les reportages, le végétal, c'est une source d'inspiration pour la création. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent la nature pour justement peindre, créer. Enfin, on a vu un artiste qui faisait des fleurs en papier en récupérant des sacs plastiques.
Je me souviens.
C'est impressionnant comme la nature qui nous entoure peut vraiment nous impacter, nous habiter et permettre de créer. Donc je trouvais que c'était compatible. En plus, ça correspond aussi, je pense, à Stéphane, qui a ce côté très créatif, que l'on voit quand il dessine, mais on connaissait moins son côté manuel, alors qu'il a fait des beaux-arts. Là, on enregistrait hier une séquence où on a sculpté de la gomme pour faire des tampons. Et il était tout content parce que ça lui rappelait beaucoup de souvenirs. Ça
la
lui
gravure,
rappelait
apparemment
à l'école. Oui, il l'avait fait, plus aux beaux-arts. Donc, de temps en temps, je pense que lui ramener ça dans sa maison et lui amener des gens en plus très compétents, parce que là, maintenant, on a des invités en plateau qui viennent parler des créations. Voilà, des gens qui sont habités par leur univers. Alors, je pense que ça plaît beaucoup à Stéphane. Donc, j'espère que ça plaira aussi aux téléspectateurs. C'est un peu la nouveauté, là, cette saison, d'amener des artistes dans la maison de Stéphane. Je trouve que c'est un énorme cadeau pour les gens qui suivent l'émission et qui viennent participer, parce que ça leur permet de voir le jardin de plus près, la maison de plus près. Donc voilà, c'est assez marrant à faire.
Alors, dites-moi précisément, c'est quoi? Vous invitez des téléspectateurs à venir
Alors, en fait, c'est des gens qui sont compétents et qui, dans une matière ou une exploitation d'une matière, on va dire. Donc, par exemple, on a eu une chocolatière qui nous a parlé de son travail parce qu'elle travaille le chocolat avec des végétaux. Donc, tous ces chocolats sont faits avec une alliance un peu originale, type la rose, on connaît, mais elle a les graines de courge, elle met gingembre, citron. Enfin, voilà, elle marie à chaque fois le chocolat avec quelque chose du jardin. Elle est passionnée par ça. Donc ça peut être une personne qu'on a invitée, par exemple, en plateau. On a eu une artiste aussi qui travaille le papier, mais qui aime beaucoup faire des fleurs en papier ou des plantes en papier. Voilà, c'est ce genre de personnes. Mais c'est plutôt des artistes que des téléspectateurs. Maintenant, on reste ouvert. Moi, j'adore avoir un échange avec mes téléspectateurs. Je faisais beaucoup la première année à demander les photos, les créations, et je trouvais qu'il y avait des gens qui avaient un niveau... très fort. Enfin, je me souviens d'un homme, il avait fait une maison un nichoir pour oiseaux, mais c'était magnifique, c'était un hôtel de luxe. Donc je pense qu'on peut être ouvert à des personnes très douées, très compétentes pour venir bricoler avec nous.
Alors, j'ai
adoré. Moi, j'aime bien ça.
Ah ben, nous aussi, hein. Et lorsque vous aimez, c'est complètement, l'écran est pour eux, et on reçoit chez nous, dans notre salon, cette joie de vivre, ce plaisir. Voilà. Et vous dire, moi, j'ai adoré le cercle où il y a les fleurs, vous savez, comme le...
Oui, de Olga Prinko.
Voilà, comment vous appelez ça? C'est pas un cercle, c'est un...
C'est un tambour, c'est un tambour de broderie avec un voile, un tulle. Donc le tulle permet une légèreté et une transparence, et on va fixer en fait des fleurs séchées à travers les petits trous du tulle, et donc on a un effet en fait comme si les végétaux étaient suspendus, puisqu'on ne voit plus le tulle à partir du moment où on l'a rempli. Et ça, c'est une artiste anglaise que j'avais remarquée sur Instagram, et j'ai adoré comme vous son travail, mais je suis vraiment tombée en arrêt. Moi, j'adore la broderie, donc déjà ça me parlait, et en plus j'ai trouvé que c'était très original. Je vois quand même beaucoup de choses, je suis beaucoup sur Pinterest et Instagram, donc on voit quand les gens se copient ou s'inspirent, comme on dit, mais ça reste de temps en temps des choses très proches. Elle a vraiment inventé une nouvelle technique, et ça, j'ai trouvé ça formidable. On en a parlé dans Silence ça pousse, et effectivement je l'ai remis dans le livre. En fait, dans le livre, on reprend les plus beaux do it yourself qu'on a fait dans Silence ça pousse. Sur 80, on en a extrait 35. Et là, ce sont mes préférés, et j'ai eu la chance, parce que mon éditeur était, mon éditrice en l'occurrence, très ouverte d'esprit, de pouvoir mettre des focus sur des créateurs, parce que je veux vraiment les mettre en valeur à travers l'interview pour comprendre leur travail, ce qui est le cas avec Olga.
C'est très généreux
de
votre...
C'est important pour moi de mettre en valeur les gens.
Et pour eux aussi,
mon métier,
c'est généreux.
C'est comme
hein.
ça. Mais c'est comme ça qu'on le fait normalement, notre métier, c'est en laissant parler les autres. Alors là, on parle de moi, mais normalement, je laisse parler les autres.
Et alors, vous avez parlé de Pinterest. Alors, vous avez écrit un petit texte là, et puis vous avez dit que dès toute petite, avec votre sœur, vous aviez la tête qui effervescente d'idées imaginatives, créatives, et votre sœur plus douée, plus manuelle au niveau de faire la chose, et que vous aviez depuis longtemps des cahiers, des petits carnets de croquis, d'idées, tout un terreau d'idées, et que là, avec Pinterest, alors dites-nous comment ça fonctionne et ce que ça vous apporte. Vous avez des dossiers numériques dans lesquels vous enregistrez les images que vous voyez et qui vous intéressent, c'est ça?
C'est exactement ça. Et en fait, j'ai même réussi à aller à la... j'ai plus le droit de faire de nouveaux albums. Je suis arrivée au maximum de la capacité. Ah. J'ai même écrit un message à Pinterest en demandant d'avoir plus d'espace. Mais oui, en fait, Pinterest fonctionne comme ça. Quand vous aimez une image que vous voyez sur Internet, vous devez l'épingler, vous pouvez la classer dans un album donc numérique virtuel. Mais ça vous permet d'avoir comme ça plein d'albums qui sont classés selon des champs différents, des choses qui vous intéressent. Alors, on peut trouver de la déco pour son intérieur, mais c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec ça. Que ce soit au maternel, j'avais des classeurs déjà axés en fonction de mes chroniques. Si on va sur mon profil, on se rend vite compte de ce que j'ai fait. Et pour Silence à Pause, du coup, je suis allée grappiller quelques idées. Alors, le travail, en fait, c'est effectivement de voir ce qui existe. De temps en temps, je dis que ça vient de Pinterest quand vraiment j'ai trouvé l'idée géniale. Et parfois aussi, ça me donnait d'autres idées. Donc là, je crée des nouvelles choses. Je pense par exemple à une table de balcon d'appoint que l'on a faite avec Fabrice qui travaille avec moi et qui m'aide. Et en fait, on a vraiment détourné une idée que j'avais vue sur
Avec la cagette, c'est ça ?
Ça n'a rien à voir. Non, ça c'est la cagette, ça c'est la table basse qui est géniale et que Stéphane a gardée.
Tellement belle.
Ah ouais, ça c'est très facile à faire.
Ouais.
Enfin, en l'occurrence, ça oui, c'était une idée que j'ai détournée, mais non, la table d'appoint du balcon, c'est un autre do it yourself. C'est vraiment une table que vous pouvez déplier quand vous avez un tout petit balcon pour pouvoir déjeuner dehors. Oh. Et en même temps, vous pouvez la rabattre comme ça, elle ne vous prend pas de place. Et elle est fixée sur une jardinière. Vous pouvez très bien l'enlever de votre balcon.
Mais c'est complètement génial, complètement génial.
Et
moi, j'ai adoré quelque chose qui n'est pas dans le livre, c'est ce métier à tisser, dans lequel il y a la laine et des fleurs qui sont imbriquées, des laines plus épaisses, plus moutonneuses. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Et ça, je vais le faire, parce que moi, je suis aussi... Et j'ai très envie de faire...
Vous êtes très artiste, je crois. Je vous ai googalisé, j'ai vu.
Ah oui, c'est vrai. Merci.
Oui,
oh, je suis très honorée. Là je n'aurai plus la même célérité dans le verbe. Là, je vais mettre à bégayer. Bon, on va oublier ça. J'oublie. Alors, vous dire que vraiment, il y a de la créativité, c'est un plaisir. Et ce livre, je rappelle donc le titre, « Silence, ça pousse, créer sa déco nature », et c'est avec une préface de Stéphane Marie, et ça sort aux éditions EPA, que je ne connais pas. C'est quoi ces éditions ?
Maison EPA, en fait, ça appartient à la base, je l'ai signé aux chaînes que vous devez connaître.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'ils ont... En fait, ça fait partie de la même maison, c'est Hachette. Mais en fait, du coup, le chêne va se positionner sur des livres très haut de gamme, gastronomie, ce genre de choses. Et donc, j'ai dû basculer chez EPA. Donc voilà, c'est simplement la même maison, mais c'est vrai que c'est une maison d'édition qu'on connaissait moins, qui éditait beaucoup de musique à la base, de photos de musique.
Mmh. Voilà. Et est-ce que vous, puisque vous n'avez que 35 et vous en avez tellement créé deux fois plus, sinon plus, puisque maintenant les dossiers doivent encore s'ajouter, vous allez ouvrir un autre livre, comment ça va se passer ?
Je ne sais pas. Alors pour l'instant, il n'est pas question d'un deuxième livre, parce qu'on vient de lancer celui-ci. C'était une super expérience à faire. J'ai eu la chance de pouvoir choisir les personnes avec qui je voulais travailler. Donc ce livre s'est fait vraiment dans la joie. Et j'ai adoré travailler avec la photographe qui est Isabelle Dubois-Dumay ou l'illustratrice qui s'appelle Nicole Maubert, qui est en Suisse. Et donc les filles ont vraiment bien travaillé sur mon livre, donc je serai partante pour en faire un deuxième avec elles. Mm-hmm. Et mon éditrice aussi, Fanny. Après, pour l'instant, il n'en est pas question. Mais c'était très chouette à faire. Beaucoup de boulot, hein, parce qu'il faut quand même décrire chaque étape, dessiner, que ça corresponde parfaitement. On avait peu de temps pour les photographier. Mais ça, c'était quand même chouette à faire.
Je vous remercie beaucoup. Ce fut un vrai plaisir, non seulement de voir votre émission, de lire votre livre, de parler avec vous. Et j'espère avoir encore l'occasion, peut-être, à Paris ou autre, de vous rencontrer. Alors, je rappelle donc ce livre, écrit, fait, dessiné, présenté par Carole Tolila. Silence, ça pousse, crée sa déco nature et ça paraît chez EPA. C'est un beau livre, un livre vraiment très charmant. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci. Hein.
Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Strasbourg pilote. Arts et lettres. mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.